Donc, la MRC de la Haute-Côte-Nord a procédé à un conseil, évidemment, une fois par mois. C'est ce qui est prévu. Et le 19 octobre dernier, en avait lieu une. La préfète de la Haute-Côte-Nord, Mme Anquetil, est avec nous pour faire un résumé de cette réunion. Bonjour, Mme Anquetil.
Bonjour.
Donc, le 19 octobre dernier, il y a eu cette réunion, la séance ordinaire du conseil. Et tout d'abord, et on a débuté la réunion avec une belle nouvelle en expliquant que la Haute-Côte-Nord s'est démarquée touristiquement parlant.
Effectivement, on a eu accès donc aux données, au bilan qui a été fait par Tourisme Côte-Nord pour la saison estivale et par les bureaux d'accueil touristique. Donc, on prend les chiffres qui sont tout à fait à notre avantage, c'est-à-dire que la Côte-Nord a été vraiment une destination très, très importante, très prisée au cours de l'été. On parle donc plus de 96 000 visiteurs comparativement aux années précédentes, 2019 qui était de l'ordre de 75 000 et quelques, puis en 2020, évidemment, avec le début de la pandémie et tout ce qui s'ensuit, 61 000. Alors que là, on dépasse le 96 000, ce qui est fort important comme
Tout à
données.
fait.
Puis on le confirme, hein, on l'a vu tout au long des mois, entre le 1er mai et le 30 septembre. On l'a vu dans nos commerces, on a vu du débordement même au niveau de nos
Oui.
campings. Alors, des gens, des visiteurs en très, très grand nombre. Et on nous dit que 96 % de ces gens-là provenaient du Québec. C'est aussi une donnée importante. C'est sûr que le tourisme européen qui était absent au cours de l'été a plus fait mal, je dirais, du côté de Tadoussac, une destination très, très choisie par le tourisme européen. Alors, ça, pour eux, c'est l'absence des gens de l'Europe marque un petit peu là, le nombre de visiteurs sur le territoire. Mais de façon générale, pour la Côte-Nord, pour la Haute-Côte-Nord, ça a été une très belle été, très achalandée, évidemment, avec toutes les retombées économiques, qui étaient au rendez-vous à ce moment-là. Fait que très apprécié, de la part, évidemment, de tous les élus, puisque tout au long de la côte, et de la Haute-Côte-Nord, ben, ils ont été présents dans nos stations-service, nos dépanneurs, la restauration, l'hébergement, camping, propane. Alors, vraiment un chiffre d'affaires important.
Oui, vraiment. Puis dans le fond, on sait que la pandémie a amené ça de très, très positif, touristiquement parlant, dans les régions, surtout du côté de la Côte-Nord. On sait que du côté de la Gaspésie, en parlant avec quelques maires et mairesses, justement, le camping pouvait être des fois quasi un peu problématique. Il y a eu beaucoup de municipalités qui ont dû prendre le temps de s'organiser, peut-être un peu mieux, entre guillemets, pour justement accueillir tous ces gens-là. Pour le territoire de la Haute-Côte-Nord, je pense que la majorité des gens ont pris ça en considération. Est-ce que ça s'est bien passé aussi du côté de Forestville?
Bien, je vous dirais de façon générale que ça s'est très bien passé.
Oui.
Oui, c'est sûr qu'il peut y avoir toujours certaines situations plus égarées que d'autres, là, mais de façon générale, en tout cas, nous, on a vu du débordement là, de camping, par exemple, sur le quai. Et j'ai vu des gens très respectueux au niveau de leurs déchets, au niveau d'une certaine distanciation aussi pour garder quand même d'anonymat, là, tu sais, ils s'étaient placés de façon quand même intéressante, respectueuse des voisins. On a eu aussi des gens, là, par exemple, sur le camping à côté du Provigo, là, qui sert aussi de débordement.
Ouais.
Quelques-uns de façon isolée, près de l'aéroport, mais jamais des comportements là, qu'on a dû aller dire, par exemple, aviser pour des comportements déviants. Moi, ce que j'ai vécu à Forestville, ça a été toujours très, très respectueux de l'environnement, de la population. Je n'ai pas eu de situation qui ont fait en sorte qu'on a dû donner des avis ou des infractions, aucune.
Puis, puisque c'est une belle nouvelle et qu'on souhaite évidemment que les années suivantes en souhaitant qu'il n'y ait plus de vagues COVID, mais que ça reste autant populaire. Est-ce que vous avez espoir en ces chiffres-là pour de l'aide financière à propos des traverses? T'sais, on le sait que cette semaine, il y a eu une annonce de 100 000 $ pour les transports maritimes. Vous êtes préfet de la Haute-Côte-Nord, donc si on parle de la traverse, Escoumin, Trois-Pistoles, évidemment, Forestville, Rimouski. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans ce dossier-là avec ces chiffres qui sont exceptionnels, à savoir si justement ça va pouvoir mettre un certain poids pour l'aide financière?
Ben, de deux choses. Oui, premièrement,
Oui.
ces chiffres-là sont importants pour nous en termes d'achalandage. Ça a été une année exceptionnelle, mais à partir de cette année-là, en fait, ces 96 000 visiteurs deviennent aussi des ambassadeurs de l'ensemble de la côte. On nous dit, les gens ils sont venus sur la côte nord pour les beaux paysages, pour le plein air, pour les baleines, voir la fin de la route 138. Donc, ce que ça nous dit, c'est voici ce qui est les attraits pour cette clientèle, ces visiteurs, qu'il faut encore une fois mettre, ça nous indique ce qu'il faut mettre en marché, autrement dit, de façon importante pour les prochaines années. Donc, oui, ça nous conforte dans ces données-là, dans les traverses. En même temps, vous savez, on défend au niveau des traverses que oui, c'est pour les visiteurs, mais c'est aussi pour le bien-être de nos populations
Oui.
locales. La mobilité des personnes, la mobilité des marchandises, on est dans l'attractivité de la main-d'œuvre aussi. Moi, je mettais en évidence que du côté de Rimouski, pour notre traverse Forestville-Rimouski, il y a le centre de cancérologie, il y a l'Université du Québec à Rimouski. Donc, c'est pour aussi l'ensemble de nos populations résidentes et nos visiteurs. Ce qu'on sait à l'heure actuelle du ministère des Transports par rapport à nos deux traverses de Forestville et de Les Escoumins, c'est que la Société des traversiers n'a pas d'intérêt à prendre charge de ces deux traverses dites intermédiaires. Bon, alors ils ont donné donc cette orientation-là. Toutefois, nous, c'était une des options, hein, une parmi des options. Donc, le dossier est toujours très actif. On continue. Ces deux traverses intermédiaires, c'est un besoin pour nos populations, pour le développement touristique et on continue à travailler de notre côté, nous, ici, Forestville et Rimouski, avec la société de promotion de Rimouski qu'on appelle la SOPER. Du côté de Les Escoumins, Trois-Pistoles, il y a aussi la société de navigation des Basques. Donc, on va de l'avant, chacun dans notre environnement, dans cette structure-là, pour faire en sorte, évidemment, du côté des Escoumins, conserver cette traverse et du côté de Forestville pour la reprise d'un service de traversier au printemps prochain. D'autres options sont sur la table de travail présentement. Et les chiffres du tourisme, évidemment, viennent donner un appui important.
Donc, je trouvais ça intéressant qu'on parle de ce sujet-là avec les belles données qu'il y a eues touristiquement parlant. Merci d'avoir pris le temps de détailler tout ça. Si on revient à la réunion du conseil de la MRC, il y a eu près de 20 000 $ qui ont été acceptés, qui ont été offerts en soutien à divers projets.
Oui, particulièrement à deux projets. Alors, dans la politique de soutien aux entreprises, une somme de 15 000 $ qui a été octroyée à l'entreprise de Mme Stéphanie Gagnon, qui en fait a présenté un projet qui s'appelle La Bulle, qui consiste en fait à la création d'un réseau web pour venir en soutien aux entrepreneurs du milieu, aux entreprises. Alors, la MRC est heureuse d'y contribuer. Et dans le cadre de soutien culturel, ce programme-là, la ville de Forestville a demandé, elle, de son côté, une aide financière de près de 4 000 $ pour son projet de marché de Noël 2021. On sait que c'est un marché de Noël qui existe déjà, donc il y aura possibilité cette année de refaire l'expérience, mais la demande est à l'effet d'avoir un marché de Noël plus animé. Donc, on parle avec chorale de Noël. On parle aussi avec un atelier, la possibilité d'atelier interactif aussi pour fabriquer des objets de Noël. Alors, Ce 4 000 $-là, bon, la ville de Forestville tient toujours son marché de Noël, mais la contribution de la MRC permet de rehausser la formule, expérimenter une nouvelle formule aussi enrichie et voir comment le milieu va réagir à ça. Donc, grâce à la contribution dans le domaine culturel de la MRC, on va pouvoir mettre un marché de Noël plus animé.
Plus animé. Donc, c'est les raisons de ce soutien financier-là. On a parlé de la couverture de risque en sécurité incendie. On sait que la MRC a adopté ce nouveau schéma de couverture qui datait de 2009. Donc, il y a eu des modifications.
Effectivement. Alors, on est dans les étapes de révision de notre schéma. C'est très important parce que, vous savez, tant et aussi longtemps que le nouveau schéma n'est pas adopté, nous sommes sous les contraintes ou de celui de 2019, sur les engagements de 2019. Alors, c'est certain qu'en 2009, pardon, pas 2019, oui. De 2009 à 2021, c'est certain que ça a beaucoup changé, autant au niveau des normes, autant au niveau de nos déploiements. Mais tant et aussi longtemps que le 2021 n'est pas adopté, on est lié aux engagements de 2009. Ce qui vraiment donc nous met aussi de la pression pour mettre à niveau, pour actualiser le schéma de couverture de risque. Alors, on avait déposé un premier projet qui nous est revenu avec des commentaires. On nous a demandé de faire des modifications qui sont beaucoup relatifs au déploiement des services, hein, et à l'entraide. Parce que dans le schéma qui appartient à la MRC, soit dit en passant, et qui relève de la loi sur les incendies, donc des obligations qui en découlent, mais à partir du schéma, on a des services à organiser. On sait qu'on a 6 municipalités, de Bergeron à Colombier, qui sont sous une entente de collaboration. Et on a par la suite la municipalité de Sacré-Cœur et celle de Tadoussac, qui ont aussi un autre déploiement. Il en reste pas moins qu'au niveau du schéma, c'est les mêmes normes. Et c'est aussi des possibilités d'entraide. Okay. Je m'explique. Dans le déploiement, donc on dit toujours le nombre de pompiers dans un temps requis avec un volume d'eau. C'est comme toujours les trois grandes lignes. Mais on sait que c'est de plus en plus difficile d'avoir des pompiers volontaires. C'est exigeant. Donc, et les temps de réponse aussi, et c'est très important de respecter les normes du gouvernement. Donc, dans notre déploiement, et dépendant des risques au bâtiment. Je m'explique, quand on parle de risque, évidemment, vous comprendrez qu'une maison unifamiliale ou que le centre de santé ou une résidence personnes âgées, une école, on est dans des risques classés de façon différente. Et c'est certain que dans les bâtiments de grand risque, ben, il faut l'entraide de tous. De tous. Il faut avoir une force de frappe, on appelle la force de frappe, c'est le délai, le nombre de pompiers et évidemment les camions citernes et l'eau en grand volume. Alors, pour respecter notre force de frappe, pour vraiment attaquer le feu de façon majeure et rapidement, bien, il y a des mécanismes d'entraide qui doivent être prévus dans nos déploiements incendies. Alors, okay. Le ministère nous avait demandé de repréciser des choses. On l'a fait. On retourne donc notre schéma actualisé au ministère pour à ce moment-là adoption et évidemment mise en œuvre. Et par la suite, si le schéma est adopté et signé par la ministre, bien, il prévoit à l'intérieur du schéma des rencontres, autant au niveau des élus concernés par l'incendie, mais autant aussi au niveau des opérations. Les chefs, les directions des casernes doivent aussi, tout au long du prochain schéma, travailler ensemble pour toujours être à la fine pointe de la technologie, être capable d'intervenir rapidement, donc dans les opérations, comment faire pour être toujours plus performant, pour recruter aussi des pompiers. Alors, c'est ça le schéma de couverture de risque. Alors, l'étape d'adoption du schéma par la MRC est une étape cruciale. Donc, on va aller vers le ministère pour le faire adopter ou corriger si le ministère nous demande d'autres travaux. Évidemment, de façon constructive, on va le faire. Puis, une fois le schéma adopté, dans chacun de nos services, maintenant, on doit mettre en place les engagements, les orientations qui sont contenues dans le schéma sous la responsabilité de la MRC.
Donc, c'est vraiment pour l'améliorer et faire en sorte que tout soit plus rapide et tout soit plus facile d'accès, justement, s'il arrive quelque chose.
Exact, il faut être prêt. On ne
Oui.
souhaite jamais avoir à se déployer, mais vous savez, dans le schéma de couverture de risque aussi, peut-être un élément d'information qui peut être important, on couvre évidemment les incendies dans nos municipalités, mais il est aussi question du service de désincarcération sur les accidents de la route,
Oui.
qui est aussi un service de grande importance, et on a les interventions en milieu isolé, qui sont en fait les interventions sur notre TNO. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'activités dans l'arrière-pays, beaucoup de chalets, il y a même des résidences permanentes à bien des endroits, la pêche, la chasse, les véhicules, les VTT, la motoneige. Hein. Alors, toute cette activité-là, qui est ce qu'on appelle en milieu isolé au sens du schéma, ben, il faut aussi avoir des unités prête à intervenir aussi à ce moment-là, des liens aussi avec Air Médic. Tout ça fait partie de notre intervention dans le schéma. Alors, c'est le recrutement, c'est le maintien des compétences, c'est les équipements, c'est les déploiements, c'est les bornes fontaines, c'est très vaste au niveau de l'engagement en incendie. Et il faut relever le défi pour la protection de nos citoyens, visiteurs dans l'arrière-pays ou résidents ou les gens qui circulent sur notre route 138, il faut être prêt à intervenir avec diligence et compétence.
Donc, c'était vraiment évidemment un gros dossier et ce sera un petit peu plus tard qu'on saura si le schéma est accepté, s'il y a des modifications à faire.
Tout à fait.
Et ben, je terminerai aussi avec deux choses, dont entre autres Alliance Forêt Boréale. On se souvient que vous faites partie du conseil d'administration et ce sera renouvelé.
Absolument, Alliance Forêt Boréale, évidemment, qui est dédiée, je dirais, à l'industrie forestière. Alors, il y a de, l'année dernière, Alliance est vraiment travaille avec le gouvernement, travaille avec toutes les instances pour la protection, pour le développement de l'industrie forestière, s'adapter aussi aux différentes mesures qui nous arrivent du ministère des Forêts, Faunes et Parcs. Alors, c'est une instance de grande importance qui regroupe le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord. On avait souhaité que la Haute-Côte-Nord ait un siège au niveau du conseil d'administration l'année dernière. Alors oui, j'ai joint les rangs de l'Alliance. Et cette année, donc, évidemment, à l'Assemblée de la MRC, je demandais qu'on renouvelle cette présence qui est fort importante pour notre industrie forestière. Donc, travailler tout le monde ensemble, avoir aussi une force, une voix plus forte dans nos régions. Pour la Côte-Nord, donc, il y a Manicouagan qui est représenté par M. Marcel Furlong, le préfet de Manicouagan. Et pour la Haute-Côte-Nord, donc, c'est moi-même et on travaille avec les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour avoir une force, une voix. Évidemment, dans l'industrie forestière, on sait que Boissacault est particulièrement concerné, mais on pense aussi dans l'industrie, dans le fait que oui, il y a la récolte de bois, mais aussi il y a la sylviculture, les travaux de reboisement, donc qui ont une grande importance pour assurer la pérennité de notre forêt. Alors, c'est dans ce sens-là que nous sommes là à la défense de l'ensemble du dossier de l'industrie forestière et évidemment de l'intérêt de nos entreprises du territoire, de nos travailleurs, autant sylviculture, récolte, transport, donc tous les volets de l'industrie forestière. Donc, Alliance Boréale a vraiment une voix importante au Québec et Manicouagan et Haute-Côte-Nord. Dans le représentant de notre industrie locale, ben on a souhaité en tout cas renouveler notre présence au sein de l'Alliance.
Donc, ça a été évidemment accepté. Et du côté de la MRC, il y a un nouveau poste qui a été créé comme à titre de conseiller à la vitalisation. municipale. Donc, ce nouveau poste-là a été créé pour quelle raison? Pour justement le territoire de la Haute-Côte-Nord?
Bien, on a obtenu du gouvernement un nouveau fonds qu'on appelle le FRR volet 4. Alors, c'est le fonds région qui, dans son volet 4, est de vitalisation. Et à l'intérieur de cette enveloppe, qui est quand même très importante, on parle de 5 millions sur un horizon de 5 ans. Alors, pour vraiment faire en sorte de vitaliser nos territoires, nos municipalités, donner un nouveau souffle en termes de développement de nos communautés, de nos entreprises. Et à l'intérieur de ce fonds-là, en fait, ce qui était attendu de nous, c'est qu'il y ait vraiment un chargé de ce fonds-là, une personne en poste chargée de faire connaître le fonds, chargé d'accompagner les entreprises, les promoteurs pour faire en sorte de redynamiser, revitaliser nos communautés. Alors, on est vraiment dans cette séquence-là et donc avec un chargé de projet, une direction à la vitalisation, ben, et on va avec le milieu déterminer quels sont nos axes de développement, quelles sont nos priorités, et après, on va faire appel à des projets de promoteurs, d'organismes pour s'impliquer et être soutenus financièrement dans le fonds Région Ruralité, volet 4.
C'est intéressant d'en parler dans notre entrevue présentement parce que à l'aube des élections municipales, la plupart des candidats, maires, mairesse, lorsque je posais la question, les citoyens, citoyennes, quand les demandes étaient là, c'était beaucoup de revitaliser les municipalités. Donc, un poste comme ça va pouvoir venir faire une belle différence pour l'ensemble de la Haute-Côte-Nord.
Oui, et vous savez, effectivement, je pense qu'on l'entend, là, tous les élus pour la prochaine élection, et je suis de ce nombre, nous avons dans nos cartons, vous savez, l'engagement au niveau des élus, c'est de développer nos collectivités. C'est pour ça qu'on s'engage en politique, pour apporter des changements, faire en sorte que nos communautés se développent. Et avec nos conseils municipaux respectifs, nous avons des projets, nous avons des idées. Et nous avons besoin de promoteurs. Et les promoteurs ont besoin d'aide financière aussi pour s'investir. Donc, c'est cette chaîne-là que ce qu'on a à l'heure actuelle dans un fonds comme celui-là, le FRR, volet 4, vitalisation de nos milieux, bien, c'est de l'aide financière pour concrétiser nos beaux projets, nos belles visions de développement, pour protéger la capacité de payer de nos citoyens aussi, parce que c'est des projets d'envergure, c'est des projets, on parle toujours en termes de centaines de milles et de millions de dollars. Donc, c'est l'aide du gouvernement pour la vitalisation de nos communautés. Et là, l'argent est au rendez-vous. Donc, je pense que tous les candidats élus à l'heure actuelle seront au rendez-vous avec des promoteurs privés ou autres pour dynamiser nos communautés.
Oui, donc c'est une excellente nouvelle. Ça fait le tour pour cette rencontre que la MRC a fait le 19 octobre dernier. Merci beaucoup, beaucoup pour votre temps et on aura l'occasion justement de se reparler pour un prochain résumé.
C'est toujours un plaisir de vous partager l'information.